du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Coq à l'âne, numéro 639. Autour de la table ce soir, Christian Bouteillon.
Bonsoir et bonjour.
Bonsoir et bonjour, bonsoir pour ce soir et bonjour pour dimanche matin.
Voilà.
Voilà. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Michel Roussel.
Bonsoir.
Salut Michel.
Salut.
Nous avons Jean Coin.
Bonsoir.
Nous avons Jean Coin. Ah oui, non, c'est vrai. Il est sur la route. Il est bloqué dans la neige. C'est quand même un comble. Un mec qui vend des fraises bloquées dans la neige. Non mais franchement, on aura tout vu. Et notre invité, c'est le secrétaire général CGT 05, c'est Christian Schuller qui est avec nous. Salut Christian.
Bonsoir.
Ah, on est content de t'avoir avec nous ce soir parce que bon, il y a une forte actualité hein, en ce moment et notamment à partir de demain samedi. Alors si vous êtes dimanche.
Hier.
Approche-toi du micro, reste pas trop loin comme ça.
Ouais, non, je voilà. Vais pas couper la parole.
Non. Mais... Donc, c'est le week-end du retour du frère de la revanche des Gilets jaunes, acte 52. Eh ouais, vous avez calculé comme moi, ça fait un an que ça dure. Et franchement, on n'est pas plus avancé. Bilan assez dramatique, hein, je vous le rappelle. 11 morts, plus de 4400 blessés, 12 000 interpellations, 11 000 gardes à vue, plus de 2 000 condamnations. Et on va fêter ça dans la joie et l'allégresse, et certainement les débordements. Et vous allez me dire, les syndicats dans tout ça. Ah, vont-ils réussir à se faire accepter par les jaunes? La fameuse convergence des luttes. Alors, peut-être pas ce week-end, on va en parler. Mais en tout cas, le 5 décembre, ça va chauffer. On va en parler aussi. La CGT sera bien sûr sur le pavé, en ligne de mire. Christian, ce sera la réforme des retraites.
Oui, tout à fait. Mais pour en revenir aux Gilets jaunes, on a pu constater qu'il y a un gouvernement qui n'a rien écouté, qui n'a quasiment rien changé. Et qui fait que la colère, elle est toujours là et que c'est reparti pour un tour. Et au niveau de ce qui se passe dans le pays, au niveau des attaques généralisées sur tout ce qui fait le quotidien des Français, c'est terrible. Hein, donc,
juste avant de venir, là, je regardais sur comment s'appelle la chaîne France Info, là, ouais, la télé. Il y a quelqu'un qui démontrait qu'il y avait quand même eu des choses qui avaient été données. Les histoires de remise sur la CSG, les salaires, les heures supplémentaires détaxées.
Ah oui, il y a quelques milliards, il y a eu 5, 6, 7 milliards.
Les fameux 90 euros mensuels en plus, etc. Non, on peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Je dis pas que c'est bien, que ça suffit. Mais on peut pas dire qu'il s'est rien passé. La taxe sur l'essence, elle a été arrêtée.
Ils ont annulé des augmentations qui étaient prévues. Ça leur a pas coûté très cher puisque ils ont rien baissé. On est juste revenu à la situation antérieure. Pour le pouvoir d'achat, les gens y demandaient une augmentation des retraites et des salaires. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Des exonérations de cotisations sociales qui font que demain notre sécurité sociale, elle va être dans un état catastrophique. On le voit déjà avec nos hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une exonération des heures supplémentaires. Quand il y a 4-5 millions de chômeurs, ceux qui ont déjà un boulot, ils vont continuer à travailler. Et en plus, c'est quasiment du travail dissimulé. Parce que quand vous travaillez et qu'il n'y a pas de cotisation sociale et qu'il n'y a pas d'impôt dessus, ça revient du travail au noir.
Ouais. Ah non.
Ah ben si. Et comment la sécurité sociale?
Mais on travaille,
mais il n'y a plus de cotisation.
Oui, alors c'est comme si
et donc disais... à la sécu, il n'y a plus de budget.
Oui, mais...
Et bien on va fermer nos hôpitaux. Oui. On va diminuer l'assurance chômage comme ce n'est pas possible.
Oui, non, mais à partir du moment où c'est légal, où on te dit les heures supplémentaires ne sont pas taxées, tu n'es pas au noir.
Il y a quand même une volonté de la part de ceux qui font les heures supplémentaires d'être au service de la nation. Et quelque part, c'est aussi légitime d'être récompensé dans ce domaine. Il y a un élan, il y a une forme de sacrifice, entre guillemets.
C'est pas la bonne solution.
Tu parlais du combat, par exemple, sur le peu de gains que vous avez eu, sur la CSG.
C'est pour les retraités.
Vous les défendez aussi, les retraités, non?
Bien sûr.
Et donc, moi, ce que je comprends pas, c'est que vous, en tant que syndicat, vous êtes des interlocuteurs privilégiés depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, vous devez faire remonter les revendications et servir d'alerte. Rocard avait mis la CSG à 2% au départ. Aujourd'hui, elle est à 16. Vous avez attendu les gilets jaunes pour dire la CSG est insupportable?
Ça fait des années qu'on le dit.
Non, elle est à 17.
Mais actuellement, ce qui
elle
se
est
passe,
à 17
ouais, ce qui ah ouais, se bah, passe dans 17, ce pays 17, et ce qui se fait qu'il y a des colères sociales pas possibles, c'est que ce gouvernement, et les précédents avant, parce que sous Sarkozy, Hollande, c'était pareil, ils n'écoutent rien ni personne.
Alors, je suis un peu...
Donc après, il n'y a plus de dialogue social, il n'y a plus de dialogue vraiment, et après, il y a des explosions de colère du type des gilets jaunes. Et après, on vient de dire... Ah, mais alors qu'est-ce qui se passe?
Oui, mais si vous permettez...
C'est eux qui ont provoqué cette explosion de colère. Alors, et c'est eux qui ne savent pas la gérer.
Là-dessus, vous êtes dans le déni, et je suis franchement... Mais c'est profondément regrettable. Mais je respecte parfaitement votre manière de penser. Sauf qu'à un moment donné, il faut, quand on revendique quelque chose, il faut mettre en face un élément économique et financier. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que personne n'est satisfait. Aujourd'hui, on a des revendications dans tous les domaines. Vous avez évoqué tout à l'heure que la sécurité sociale est annoncé en déficit, 4 milliards.
Oui.
Vous savez comme moi que...
Vous savez d'où ils viennent, ces 4 milliards?
Je vais, non, mais vous allez voir. Je vais quand même, il y a un élément qui écorche un peu le commun des mortels. C'est que la sécurité sociale de la SNCF est abondée pour 4 milliards par le régime général. Il y a un moment donné, et c'est pas les plus, ce sont pas les citoyens les plus à plaindre. Vous savez, vous êtes mieux dotés que moi pour savoir les choses. La retraite moyenne du régime général, moyenne, c'est environ 1200 euros. La retraite moyenne à la SNCF, c'est 2300 euros. Il faut savoir qu'il y avait, il y a 3-4 ans en arrière, 5 ans en arrière, il y avait 140 000 agents à la SNCF. Aujourd'hui, ils sont 120 000. La masse salariale ne décroît pas. C'est vrai qu'il faut qu'on nous explique, à nous, au commun des mortels, comment une entreprise peut agir comme ça. Toutes les TPE, toutes les entreprises normales doivent, à un moment donné, aboutir et équilibrer leurs comptes.
Mais la SNCF, ils ont aussi des cotisations qui sont plus élevées.
Oui, mais ils ont aussi...
Ensuite, attention, régimes spéciaux, ça représente 3% du nombre des retraités en France. Et dire que les problèmes 3%. Dans ce pays... Oui, de l'ensemble des retraités. Il non, faut dire c'est 3% qui mettent en danger l'ensemble du non. système. C'est diviser les Français.
Vous avez peut-être raison. Sauf qu'à un moment donné, il y a cette forme d'injustice sociale. Vous savez, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, on nous dit, et l'égalité en droit, et je rajouterai en droits sociaux. Vous êtes peut-être pas d'accord, mais en ce qui me concerne, je défends la volonté de dire que oui, on doit être égaux en droits sociaux. Et probablement qu'il y a des gens qui ont des gros salaires qu'il faudrait peut-être réduire. Vous savez, on a des politiques éminents qui sont à la fois à 15 000 euros par mois parce qu'ils sont président je sais pas quoi, et 15 000 euros de retraite. Il y a un moment donné, par mois, pardonnez-moi. Il y a un moment donné, il faut se mettre à la place du commun des mortels. Et c'est vrai que l'altruisme dans ce monde-là, je pense qu'ils ont déchiré la page du dictionnaire et ils ont oublié la définition. On vous demande aux nouvelles générations de faire des sacrifices, de payer pour les retraités que nous sommes bientôt, que pour certains et pour moi, ma part, j'en suis. Mais je veux respecter aussi les jeunes. Et je vois pas comment à chaque fois, de tous les secteurs, secteur médical, secteur judiciaire, dans tous les secteurs, tout le monde, tout ce qui est accroché au monde de l'État, veut une augmentation, un truc comme ça. Et c'est peut-être probablement justifié. Mais à un moment donné, il y a aussi une enveloppe derrière. Et comment on équilibre les comptes, comment on fait? Vous savez très bien qu'il y a une dette nationale qui est à près de 97% du PIB, de 2700 milliards. Alors peut-être qu'on ne la payera pas, j'en sais rien. Mais pour ma part, ça devient indécent de considérer qu'on peut dépenser sans contrepartie. Et peut-être dans ce cas-là, s'il faut emprunter davantage parce qu'on l'intérêt aujourd'hui, c'est zéro et moins que zéro. Empruntons. Si on ne la remboursera pas, il faut emprunter 10 fois plus. C'est vrai que c'est une stimulation économique. Mais est-ce que c'est vertueux? J'en doute. Et est-ce qu'en termes environnemental, il ne faut pas l'oublier, il faut toujours glisser ce mot-là dans les discussions, est-ce qu'en termes environnemental, c'est louable? J'en suis pas intimement convaincu. Mais je n'ai pas la clé. Et je respecte votre idéologie, je respecte votre travail, je respecte, comment dire, votre... Le côté vindicatif des fois, je respecte ça.
Christian, on va te donner
c'est pas de l'idéologie, mais par exemple, prenons le déficit de la sécurité sociale. Ce gouvernement a répondu à une partie de la mobilisation des Gilets jaunes par des exonérations de cotisations assez générales.
Oui.
Or, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale de l'année prochaine, toutes ces cotisations, elles ne sont pas compensées par l'État. Ça veut dire que les milliards qui sont passés dans ces exonérations, elles plombent la sécurité sociale, elles plombent nos hôpitaux, elles plombent notre sécurité sociale. Ça va vraiment pas. Et c'est parce que ça, les gens, ils demandaient pas qu'on leur baisse leur cotisation sociale pour qu'ils aient plus de sécurité sociale derrière. Ils demandaient à avoir du pouvoir d'achat, une augmentation des salaires et des retraites.
Alors, comment vous faites? Si vous êtes une petite entreprise, je sais pas, à partir du moment où vous allez avoir des frais généraux, vous avez un salaire, des salariés sur lesquels vous allez payer, pourquoi, notamment dans le privé, pourquoi on les augmenterait pas, ceux-là? Mais il faut amender, on va les augmenter. Donc, c'est un coût global sur la.
Vous êtes une petite entreprise, vous avez des clients. Actuellement, les clients, du fait de leur pouvoir d'achat, ben, ils reportent beaucoup des travaux qu'ils ont à faire chez eux ou des achats où ils le font eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Oui, vous avez
parce que s'il y a une augmentation du pouvoir d'achat, il y a une conséquence sur l'économie. Il faut savoir qu'une bonne partie du moteur de l'économie en France, c'est la consommation des ménages. Qu'est-ce qu'on fait là? On les étrangle. Et après, on s'étonne que l'économie
parte à volo. On se mord la queue. Qu'est-ce qui se produit? Il y a beaucoup de revendications qui veulent beaucoup d'argent dans tous les secteurs. Dans l'éducation, dans le secteur médical, et dans le secteur judiciaire et bien d'autres. Sauf qu'à un moment donné, c'est des prélèvements d'impôts, de taxes et de plein d'autres choses.
Prenons la fonction publique. Oui. Ça fait 8-10 ans qu'il n'y a plus d'augmentation du point d'indice de la fonction publique. Ça veut dire qu'ils ne sont plus augmentés. Vous prenez les infirmières. Les infirmières en France, par rapport à l'Europe, dans le classement, au niveau de leur rémunération, elles sont 26e sur 30. Et on nous dit qu'on est trop payé et qu'on coule l'économie. Pas du tout. On est en train, justement, de décourager tout le monde. Demain, dans la santé, d'abord les hôpitaux, il n'y aura plus de budget. Les personnels qui y sont, ils en auront tellement marre qu'ils vont se barrer. Mmh. Et les jeunes, ils vont se dire, qu'est-ce que je vais aller faire, travailler dans des conditions pareilles? Ils ne vont pas venir. Ça va être une catastrophe. Et là, on continue, on klaxonne et on va dans le mur.
Les hôpitaux, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de budget, puisque le budget est passé de 80 milliards d'euros à 82 milliards d'euros en 2019. La question qu'on peut se poser, c'est comment est utilisé cet argent? Ça, c'est une question qu'on pourra se poser. Est-ce que, Jeannot, tu voulais... Il nous a rejoint, Jeannot, on va le saluer. Bonsoir. Salut, mon Jeannot. Tu voulais réagir un peu?
Non, j'écoute religieusement.
Oui, je vois ça, tu étais là, les mains jointes.
Tout à fait, oui.
Il prie.
Une question. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui nous ont présenté les Gilets jaunes comme un groupe, comme une formation en quelque sorte pour pallier au manque des syndicats? Alors je ne parle pas que de la CGT, mais des syndicats en général qui n'avaient pas réussi à aboutir donc à leurs revendications du Quidam, et en fait les Gilets jaunes ont réussi en quelques mois ce que les syndicats n'ont pas réussi en plusieurs années. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Le gouvernement, il a une responsabilité très importante, parce que quand il n'y a plus de dialogue social dans ce pays, quand on n'écoute plus les représentants des salariés, des retraités, des privés d'emploi, et qu'on continue sa politique, quoi qu'on puisse dire les uns les autres, au bout d'un certain nombre d'années, il y a des mouvements, il y a des grèves. Les salariés, qu'est-ce qu'ils voient? On a fait grève, mais on n'obtient rien. Ben, au bout d'un moment, ils se disent, l'action syndicale, ça sert à rien.
Mais il a fallu attendre. Donc, il a fallu attendre Macron pour qu'on en arrive.
Ce gouvernement, il prend le risque. Il n'y a plus de dialogue social, il n'y a plus de possibilité de s'exprimer et de manifester sa colère. Et ben, sa colère, elle explose de façon pas organisée et un peu sauvage et très diverse. On a eu les Gilets jaunes. Actuellement, ça continue à se dégrader comme pas possible. Il y aura d'autres explosions, peut-être dans la continuité des Gilets jaunes ou peut-être d'autres formes. Mais si on continue, ça va exploser.
Mais le monde
regardons par exemple les jeunes et les étudiants. Là, je ne veux pas monter en épingle le drame qu'il y a eu avec le jeune Anas.
Oui.
Mais vous avez un étudiant sur cinq qui est en dessous du seuil de pauvreté.
Oui.
Vous avez des étudiants qui ne mangent pas. Il y a des étudiants qui renoncent à se soigner. Vous avez des étudiants qui sont obligés de travailler avec des horaires qui ne correspondent pas à leurs études. Avez de plus en moins... Enfin, on a de moins en moins de fils d'ouvriers, d'employés, de gens modestes. Leurs enfants, ils ne peuvent plus faire d'études parce que ça coûte trop cher et que c'est trop difficile. Et les classes les plus aisées qui envoient leurs enfants qui réussissent.
Là,
ça ne va pas dans le bon sens. L'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol.
Là, on nivelle par le bas, Là, on nivelle par le bas, puisque là, tu donnes quelques exemples, ce n'est pas la majorité. Il faut savoir quand même, parce que c'est important, moi je me suis penché quand même sur ce problème de l'université. Il faut savoir que l'université française est une des plus subventionnées au monde.
Oui.
Une des plus subventionnées au monde. Les étudiants payent moins de 5% du coût réel d'une année d'études. Il faut savoir qu'une année de fac en Angleterre, c'est minimum 10 000 euros, quelle que soit la fac, quelle que soit la matière. Les États-Unis, c'est plus de 30 000 euros. Et encore, ça, c'est les petites. Alors, comment font-ils là-bas? Les aides sont nombreuses en France. Il faut savoir que 4 étudiants sur 10 sont boursiers. Il y a le CROUS, enfin les CROUS, non, le CROUS. Il y a les APL, il y a le Resto U, il y a les tarifs de transport préférentiels, il y a l'accès gratuit à la culture, il y a les baisses de frais de sécu. Alors, je dis pas que tout est parfait, mais là, on a vraiment le sentiment qu'on est aujourd'hui en France dans le pire pays, alors qu'on est le premier pays qui est dont le plus et apportons le plus de subventions.
C'est aussi l'histoire de notre République. On a toujours estimé que dans notre pays, l'éducation, elle devait être gratuite. C'est un investissement pour l'avenir. Maintenant, si elle doit être de plus en plus, les familles doivent de plus en plus payer, les étudiants payer, etc. Ça fonctionne pas. Il y a une bonne partie de la population qui est écartée de la possibilité de faire des études. Parce que là, les frais d'inscription qui augmentent de façon pas possible, les APL qui couvrent absolument pas le coût des loyers, il y a absolument pas le nombre qu'il faudrait d'appartements dans les CROUS, etc. Oui. pour les étudiants. Il en manque rien qu'à Paris plus de 60 000.
Mais vous avez des solutions économiques et financières.
Ah ben, des solutions
qui soient pas pénalisables pour le commun des mortels et qui soient profitables aux étudiants. Donc, par défaut, qui à un moment donné abondera dans le bon sens, pour la nation.
Ben, il faut investir dans l'éducation pour les générations futures.
On est d'accord, mais comment on le finance?
On est toujours en train de parler d'argent, de toute façon.
C'est
le nerf de la guerre.
On ne peut pas échapper à ça.
Mais c'est comme en ce moment, on est en train de foutre en l'air la formation professionnelle. Les formations professionnelles qualifiantes, par exemple, comme il y avait à l'AFPA, c'est fini. Oui. Maintenant, on va vous former à des compétences. Il n'y a plus personne qui va apprendre un métier dans ce pays. C'est une catastrophe. On va dans le mur.
C'est culturel. Aujourd'hui, Emmanuel,
depuis que Emmanuel Macron est arrivé, la formation professionnelle des adultes, c'est fini.
Vous avez raison. Sauf que les prélèvements, justement, les charges qui sont basées sur la formation professionnelle, il y en avait une bonne partie qui alimentait effectivement le fonctionnement des syndicats. Et ça aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, effectivement, les syndicats vont passer à la trappe puisque la formation professionnelle va être gérée autrement. Je ne dis pas que c'est mieux, et là je vous rejoins.
Mais c'était une gestion paritaire, il y avait aussi bien les salariés de syndicats que des salariés d'employeurs.
Il y avait plein de dérives, malheureusement, qui n'étaient pas au bénéfice de ceux qui
auraient pu en profiter. Mais ce n'est pas ça qui explique la situation actuelle.
Il y a quand même une époque où il y avait une sacrée gabegie dans la formation continue. Oui. Nous, naïvement, puisqu'on exerce en profession libérale, on cotisait au travers de l'URSSAF à cette formation. On ne savait même pas qu'on y avait droit, puisque nous, on pensait qu'on était formés, donc on ne se formait pas.
C'est arrivé après,
Et là, on a appris qu'il y a des personnes qui... Alors, à l'époque, c'était colossal, les montants annuels. Et le voyage, et l'hôtel, et le restaurant. Je veux dire, tu partais en vacances avec la formation continue.
Oui. Hein ? Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait des contrôles, un suivi. Et...
Ah ben oui, ben après, le contrôle.
C'est vos organisations de profession libérale qui contrôlaient l'opérateur de formation. Hein, donc,
il faut regarder soi-même. Vous savez, c'est l'effet du balancier. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait en gros partir partir en vacances, elle est pour faire court, hein, pour grossir le trait. Aujourd'hui, moi, il y a un an et demi, on a demandé une formation pour mon épouse qui est prof de danse. On a demandé une formation en informatique. Est-ce qu'aujourd'hui, un professeur de danse peut se passer de notion d'informatique? Sa formation a été refusée parce qu'elle n'était pas en lien avec son activité.
Oui.
Et ben ça, on est contre. Surtout actuellement, dans la formation professionnelle des adultes, qui est justement pilotée en grande partie par les régions, maintenant, les régions, elles disent, il faut qu'on réponde aux besoins des entreprises. Les besoins, les envies des salariés... On n'en a plus rien à faire.
Alors, pour finir, la formation qu'on avait demandée, c'était 600 euros. C'était pas des 100 et des 1000. 600 euros pour apprendre à se servir de Excel, de Word, tu vois, je veux dire, d'Internet,
d'ouvrir tes emails. Formidable plateforme de formation avec l'AFPA, ça va être détruit, ça va être mis à la location.
Ça, je sais pas, c'est pas fait encore, non?
Oh, c'est quasiment fait. Il y a des plans de...
Vous avez raison que c'est vrai que depuis plus de 10 ans, la réforme effectivement des formations professionnelles, parce qu'il y a eu des abus dans tous les domaines, eh bien, effectivement, on va perdre certaines choses. Mais il y a un moment donné, c'était aussi...
Ah, mais quand on a 5 millions de chômeurs, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a plus rien pour former à des métiers, c'est grave.
Alors,
il va y avoir des formations bidons sur des compétences. Et vous n'aurez pas de qualification en sortant de ces professions. Donc, ça sera difficile de trouver un emploi et d'avoir une rémunération qui correspond. ça va pas dans le bon sens.
Mais il y a même des formations qualifiées qui ont disparu. À Poléro, vous avez une formation de patriés, aujourd'hui elle n'existe plus.
Ben, ouais. On le déplore.
Ça, on forme plus de patriés.
C'est parce que ça coûte un pognon de dingue.
Ça comme fait 40 ans d'investissement.
Comme le dit
c'est une gestion à court terme,
notre
comptable,
président.
Nous amène dans le mur.
On revient dans un instant, on va aller s'intéresser à l'hôpital. Ne bougez pas, c'est le coq à l'âne et on revient juste après ça.